Commençons par vous donner quelques chiffres qui nous permettront de cadrer le sujet qui nous occupe ce soir, la faim dans le monde. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour la nourriture et pour l'alimentation pardon, et l'agriculture, estime que nous avons à présent dépassé le milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Ça représente un enfant qui en meurt toutes les 5 secondes, c'est-à-dire plusieurs milliers pendant le temps que durera cet exposé. Un fait tout à fait marquant et les conséquences absolument dramatiques qu'ont occasionné les différentes crises que nous venons de subir, qu'elles soient alimentaires, financières et maintenant économiques, sur la faim dans le monde. Pour se faire une idée rapide de ces conséquences, observons ce graphique. Nous y voyons l'évolution du nombre de millions de personnes souffrant de la faim dans le monde, avec une augmentation nette depuis le milieu des années 90. Cette évolution est bien sûr à mettre en parallèle de l'évolution démographique qu'a subie l'humanité pendant la même période de temps. Et si nous nous intéressons à présent au pourcentage de personnes sous-alimentées dans le monde, nous observons une forte diminution de la fin des années 70 au milieu des années 2000, puis malheureusement une hausse depuis le milieu des années 2000. Il nous semble intéressant de mettre cette hausse en regard de ce que les Nations Unies ont appelé les objectifs du millénaire. En 2000, les Nations Unies ont signé une charte qui comprenait un certain nombre d'objectifs et dans le premier objectif figurait la diminution par deux du nombre de personnes souffrant de sous-alimentation d'ici 2015. À l'époque, on espérait pouvoir atteindre 400 millions de personnes souffrant de sous-alimentation d'ici 2015. On est actuellement à 1 milliard, on voit donc que l'optimisme des années 2000 est bien loin. Deux éléments qui vont guider notre présentation. Le premier, c'est les limites de l'équation offre-demande. Qu'entendons-nous par là? Évidemment, le prix sur un marché, qu'il soit agricole, financier ou autre, résulte de la confrontation d'une offre et d'une demande. Néanmoins, nous sommes ce soir en train de parler de faim dans le monde, et donc en train de parler de prix à la consommation, de gens qui ont accès ou non à des céréales ou des kilocalories, pour en parler de manière plus abstraite. Ce que nous aimerions pointer ce soir, c'est que l'équation offre-demande, qui est un élément important puisqu'il va falloir augmenter la production par deux d'ici 2050 si nous voulons avoir l'adéquation offre-demande pour produire assez pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050, est une condition nécessaire mais pas suffisante. Un autre élément qui guidera notre présentation est la confusion entre les déterminants conjoncturels et les déterminants structurels de la faim. Il nous semble qu'il y a eu un certain nombre de confusions, notamment dans l'analyse de la crise alimentaire de 2007-2008, que ces confusions ont participé à des commentaires et parfois à des décisions politiques inadéquates. Pour ce faire, nous vous proposons le plan suivant pour cette courte présentation. Tout d'abord, attention à la logique offre-demande, ensuite, identifier les causes structurelles de la faim, et enfin, de manière peut-être un peu ambitieuse, mais qui fera le lien, j'en suis sûr, vers les remarques de nos deux interlocuteurs de ce soir, quelle politique de lutte contre la faim? Attention à la logique offre-demande. Commençons par quelques éléments d'analyse, on va dire, classiques à long terme. Par long terme, on entend 2050 et par classique, on entend présent un peu partout dans la littérature, mais qui n'est pas inutile de repréciser, histoire de cadrer le débat, pour que nous ayons tous ces chiffres en tête. Donc, en démographie, on prévoit qu'il y aura environ 9,2 milliards d'êtres humains en 2050. Il y a une augmentation de la consommation de viande qui, en ce moment, tourne autour de 1 à 2% par an. Il y a des politiques de production de biocarburants qui sont bien connues, notamment aux États-Unis, de consommation d'un tiers du maïs américain. La position européenne n'est pas encore fixée et est sujette à débat. Et face à cette explosion de la demande, nous avons un ralentissement de l'offre. Parmi les éléments qui peuvent expliquer ce ralentissement, on peut noter le tassement des rendements, la diminution des surfaces arables. Donc on a directement le lien avec les problèmes climatiques d'actualité en plein sommet de Copenhague. Puis également l'épuisement des ressources en eau et en énergie. Là, on voit que sur ces problématiques-là, c'est bien connu, les politiques agricoles, les politiques climatiques et les politiques énergétiques sont très liées. En parallèle de cette tension offre-demande, on peut se demander où sont les marges de manœuvre. En termes de demande, il y a la limitation de la production d'agrocarburants, souvent citée. L'incitation au régime végétarien peut faire partie aussi des solutions possibles, ayant en tête que pour 1 kg de volaille, on a besoin de 4 kg de céréales et de 4 tonnes d'eau. Donc ça fait partie des solutions envisageables. Il y a également la limitation des gaspillages dans les pays riches. Soyons-en conscients, il y a une note du ministère de l'Agriculture de 2005 qui pointait les volumes assez impressionnants, mais de nourriture qui sont perdus chaque année dans les pays riches. Le pendant de la limitation des gaspillages dans les pays riches est la limitation des pertes dans les pays en voie de développement. Il faut savoir qu'énormément des productions sont perdues au moment de la récolte et du stockage, du transport, donc pour des raisons d'infrastructure principalement. Pour améliorer l'offre, il y a aussi des ressources de technologies agronomiques, comme les OGM, des gisements de terres inexploités, mais qui souvent posent le problème de l'adéquation entre les politiques agricoles et des politiques climatiques, quand il s'agit par exemple de déforestation. On peut aussi citer une meilleure gestion des ressources en eau et en énergie, et espérons que les travaux actuels des grands pays du monde aboutiront à quelque chose. Quand la demande ne rencontre pas l'offre. L'analyse classique offre-demande ne prend pas en compte une chose qui est relativement simple, qui est l'accès physique et financier à la nourriture. Pour citer Edgar Pisani, il dit qu'une kilocalorie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui est disponible à un moment donné, à un endroit donné, à un prix donné. Ça paraît complètement trivial. Néanmoins, un bon nombre, on va le voir, d'analyses ne prennent pas cet élément en compte et ça a parfois abouti à des solutions inadaptées. Typiquement, si on s'intéresse à la période des crises alimentaires, en moyenne, à l'échelle de la planète, il y avait assez de kilocalories pour nourrir tout le monde. C'est évidemment une illusion parfaite puisque les calories n'étaient pas disponibles au bon endroit pour les bonnes personnes au bon prix. Mais on voit bien qu'un raisonnement à l'échelle planétaire simplement basé sur un équilibre offre-demande est fou puisque cette condition nécessaire était déjà réalisée lors des crises alimentaires, mais pas l'accès physique et financier. Si maintenant on s'intéresse plus précisément au problème des inégalités et qu'on regarde les pays dans lesquels, à l'échelle du pays, il n'y a pas assez de kilocalories pour nourrir les personnes en moyenne. On se rend compte qu'il y a, entre guillemets, seulement 160 millions de personnes sous-alimentées vivant dans un pays avec un nombre de calories moyen par personne insuffisant. Ça veut dire qu'il y a environ 840 millions de personnes qui vivent dans des pays où, à l'échelle du pays, en moyenne, il y a assez de kilocalories disponibles pour les nourrir. Donc, en conclusion partielle de cette partie, on peut dire que actuellement, les problèmes d'inégalité restent le facteur majeur aujourd'hui, que ce soit dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement.
Donc, un exemple qui nous semble assez révélateur de la focalisation en quelque sorte des esprits sur cette volonté que l'offre et la demande soient équilibrées, c'est celui des agrocarburants qui a fait beaucoup de bruit au moment de la crise alimentaire. Donc en 2007-2008, les prix des matières premières agricoles ont flambé sur les marchés internationaux. Vous avez là les prix en dollars par tonne du maïs, du blé et du riz sur le marché de Chicago. Et on voit qu'effectivement, à partir de janvier 2007 à peu près, ces prix se sont mis à flamber. Et à ce moment-là, un certain nombre d'analyses ont été effectuées et ont focalisé l'attention sur un certain nombre de phénomènes, notamment celui des agrocarburants. Jean Ziegler, le prédécesseur de Olivier de Schutter, en tant que haut rapporteur pour les questions sur la faim et l'alimentation auprès de l'ONU, a traité les biocarburants de crimes contre l'humanité. Et on a vu circuler un certain nombre d'affiches, telles que celle-ci du Comité catholique contre la faim et pour le développement, qui qualifie pareil les agrocarburants de responsables indirectement de la faim dans le monde. Ce qu'on voudrait vous dire aujourd'hui, c'est que les raisonnements du type « un plein de biodiesel de maïs nourrit une personne pendant un an » sont typiquement liés à cette analyse offre-demande qui considère qu'une calorie, il faut simplement qu'elle soit produite et qu'elle est instantanément disponible pour toute personne qui a faim. Alors ce raisonnement, il est vrai dans un pays comme le Mexique, puisqu'il y a une zone de libre-échange entre les États-Unis et le Mexique qui fait que les Mexicains, forts consommateurs de maïs, souffre directement du fait que les États-Unis décident finalement de produire du biodiesel à partir de leur maïs plutôt que de l'exporter au Mexique. Mais ce raisonnement est beaucoup moins vrai en Afrique subsaharienne. En résumé, on pourrait dire que la production d'agrocarburants n'influence pas l'offre de céréales en Afrique. Et si on regarde par exemple les exportations agricoles des États-Unis par zone géographique, on se rend compte qu'elles ne sont que de 4% en Afrique, sachant que parmi ces pays africains, c'est essentiellement en Afrique du Nord qu'ils exportent des matières agricoles, et sachant également que seulement 20% de la production américaine est exportée. Donc au final, sur 1 kg de maïs américain, il n'y a qu'un gramme qui arrive en Afrique subsaharienne. Donc le raisonnement, un plein de biodiesel nourrit une personne pendant un an, en Afrique, il se transforme en un plein de biodiesel nourrit une personne pendant un repas, ce qui est déjà beaucoup moins impressionnant. Et donc, conclusion de cette partie, l'adéquation offre-demande est évidemment une condition nécessaire pour que chacun puisse manger à sa faim, mais qui est loin d'être suffisante, et encore une fois, à l'heure actuelle, le problème n'est pas celui-là, c'est vrai que c'est un problème qui va sans doute le devenir à horizon 2050, mais ça reste malgré tout hypothétique. Le problème aujourd'hui est plus un problème de répartition et d'accès physique et financier de l'ensemble des personnes à la nourriture produite. Alors deuxième partie, identification des causes structurelles de la faim. Les récentes crises, crise alimentaire, crise financière, crise économique, ont suscité un certain nombre d'analyses, ce sont des crises mondialisées, et d'après nous, ce sont des événements finalement ponctuels qui sont liés à des événements également ponctuels et qui détournent l'attention des causes profondes structurelles de la faim. Donc la première question à se poser, c'est qui sont les vraies victimes de la faim dans le monde ? Avec la crise alimentaire, les émeutes, on a eu l'image des Mexicains qui se sont révoltés dans la rue parce que le prix de leur tortilla était devenu beaucoup trop élevé. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que 90% des personnes sous-alimentées à travers le monde vivent en réalité en Asie et en Afrique subsaharienne. Vous avez là les derniers chiffres de la FAO en 2009. Sur le milliard de personnes sous-alimentées, vous en avez 642 millions qui vivent en Asie et Pacifique. C'est essentiellement dû au fait que c'est le continent le plus peuplé du monde, notamment avec la Chine et l'Inde. Mais si on s'intéresse, ce qui est sans doute plus pertinent, à la proportion de personnes sous-alimentées, eh bien c'est l'Afrique subsaharienne qui arrive en tête de ce triste classement, avec un tiers de sa population qui souffre de la faim. Autre point qu'il faut absolument avoir à l'esprit, c'est que 80% des personnes sous-alimentées vivent non pas dans les villes, mais en milieu rural. Vous avez 6,8 milliards d'habitants sur Terre, la moitié vivent à peu près dans les villes, l'autre moitié dans les campagnes. Pourtant, en milieu rural, près d'une personne sur quatre est sous-alimentée, alors que dans les villes, c'est seulement de l'ordre de 6%. Donc l'image du Mexicain qui se révolte dans la rue parce que sa tortilla est trop chère, c'est loin d'être celle de la personne qui souffre structurellement de la faim, qui, pour caricaturer, est plutôt le paysan en Afrique subsaharienne. Deuxième sujet qui a été largement traité au moment de ces crises, c'est la responsabilité des marchés internationaux. C'est vrai que les crises sont à l'heure actuelle mondiale, et on a beaucoup reproché à ces marchés d'être responsables, là encore, en quelque sorte, de la faim dans le monde. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les victimes, maintenant qu'on les a identifiées, les victimes de la sous-alimentation, est-ce qu'elles ont ressenti, comme les personnes qui se sont révoltées pendant les émeutes, est-ce qu'elles ont ressenti de la même façon la hausse des cours ? Là, c'est loin d'être le cas, puisque la plupart de ces personnes consomment finalement des produits qui sont pas ou peu cotés sur les marchés internationaux, notamment en Afrique subsaharienne, les gens consomment beaucoup de tubercules, de racines, de millet, de sorgho, qui ne sont pas cotés sur les marchés internationaux. Et par ailleurs, la plupart des produits qu'ils consomment sont produits localement et sont donc assez largement indépendants des marchés mondiaux. Vous avez là quelques exemples, le sorgho au Niger, le millet au Sénégal et au Mali, et le riz en République démocratique du Congo. Et vous voyez assez clairement qu'au moment du plus fort de la crise alimentaire, il n'y a pas eu de pic particulier, sauf peut-être pour le riz en République démocratique du Congo, mais ce pays est frappé par un certain nombre de guerres civiles, ce qui fait que les prix y sont structurellement très volatiles, très variables, et finalement ce pic se confond en quelque sorte avec les pics habituels rencontrés par le riz dans ce pays. On a également beaucoup reproché aux marchés internationaux de créer une volatilité importante sur les prix. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas tant les prix sur les marchés internationaux que les prix à la consommation, c'est-à-dire ceux qui touchent directement ceux qui souffrent de sous-alimentation. Et là, si on regarde un pays assez typique comme le Mali et qui importe une partie de son riz et qui en produit localement, eh bien le produit issu des marchés internationaux, à savoir le riz importé, est finalement, c'est le graphique en haut, beaucoup moins volatile dans une période normale 2006-2007 que le prix à la consommation du riz local. Et même au plus fort de la crise, en 2008, eh bien, le prix du riz importé, le prix à la consommation du riz importé, a atteint des niveaux de volatilité voisins de ceux du prix du riz local. Donc finalement, les produits locaux consommés par les personnes souffrant de sous-alimentation sont beaucoup plus volatiles que les produits importés, issus des marchés internationaux. Un autre exemple, c'est celui du Sénégal. Donc le Sénégal est un pays où les gens consomment énormément de riz, entre 100 et 110 kilos par personne et par an. Ils importent 80% de leur riz, essentiellement de Thaïlande, et on s'est donc intéressé au prix à la consommation de ce riz importé. Donc pour ça, je vais vous faire voyager au Sénégal entre mars 2005 et avril 2008. Le riz, il est réceptionné à Dakar. Là, vous avez le prix du riz de mars 2005 à février 2008. Ce prix à la consommation est finalement extrêmement stable, jusque vers avril 2007, où les premiers mouvements se font sentir sur les marchés du riz. Maintenant, si on s'éloigne un petit peu, à Kaolack, ce riz, pareil, est extrêmement constant. C'est essentiellement dû en fait au fait que les différents intermédiaires sont des gros importateurs, des grossistes, qui vont jouer sur leur marge pour assurer un prix constant aux consommateurs. Si par contre on va plus à l'intérieur des terres, à Tambacounda par exemple, ce prix est beaucoup plus variable, beaucoup plus volatile, et c'est le cas également à Diaobé, plus à l'intérieur des terres. Donc finalement, cet exemple, que nous apprend-il? Eh bien que la variabilité des prix à la consommation, pour les personnes qui souffrent de sous-alimentation, celles qui sont dans les campagnes, il est bien plus dû à des facteurs locaux que aux variations sur les marchés internationaux. Ces facteurs locaux, ça va être les aléas de transport, ça va être les manques d'infrastructures, le fait qu'il y a peu de routes ou qu'elles sont mal desservies, le fait que les paysans n'ont pas de silos de stockage appropriés, qu'il y a une multiplicité de petits intermédiaires qui n'ont pas forcément les informations qui leur permettent de proposer un prix cohérent, et également que les accès au marché sont extrêmement difficiles. Il arrive que des paysans mettent une demi à une journée pour se rendre sur les marchés où ils vendent leur production. Donc en conclusion de cette partie, les messages qu'on voulait vous faire passer, c'est qu'il faut relativiser l'influence des cours internationaux, que les crises alimentaires, financières et économiques sont des événements internationaux, c'est vrai, elles ont eu des conséquences sur la faim dans le monde, mais ça reste d'après nous des événements ponctuels qui sont liés à des événements conjoncturels, et donc trop s'attacher à ces événements, c'est faire fi des problématiques profondes de la faim, qui d'après nous sont plus dues à des problèmes locaux, type infrastructure, stockage, etc.
Passons à présent à quelques mots sur les politiques de lutte contre la faim. Nous allons commencer par regarder ce qui s'est passé lors des crises de 2007-2008, les crises qui, comme Michel Berry l'a rappelé en introduction, sont le genre de phénomène qui ramène à la surface périodiquement, malheureusement, le problème de la faim. Donc là, on prend deux cas qui sont relativement polaires, le Sénégal et le Mali. Pourquoi ce sont deux cas polaires? Parce qu'il y en a un qui est complètement autosuffisant et puis l'autre qui importe quasiment tout son riz. Donc évidemment, les pays ont réagi fort naturellement. Pour les pays dépendants, suppression des droits de douane pour essayer de modérer l'influence des élévations des prix internationaux. Et puis pour les pays qui sont autosuffisants et qui ont une forte production, tentative de fermer les frontières au maximum pour essayer d'éviter qu'il y ait des fuites de la production des pays vers l'extérieur. Regardons l'effet de ce genre de politique interventionniste. Ici, nous avons le prix sur les marchés internationaux du riz et puis le prix sur le marché à Bamako. On aurait pu aussi représenter le prix au Sénégal pour comparer. Ce qu'on peut observer, c'est que la politique au Mali a permis en partie de réduire la hausse enregistrée sur les prix à consommation sur les marchés à Bamako. Il y a aussi un phénomène, vous le voyez, de décalage dans le temps. Ça ressemble à un phénomène de propagation d'ondes. Pour vous donner un élément de comparaison, si on regardait le même prix, comme l'a fait Frédéric tout à l'heure au Sénégal, on observerait qu'à la fois la répercussion s'est faite plus directement, mais a atteint plus de 500 francs CFA pendant une période plus longue, alors qu'en janvier 2007, les prix étaient à peu près équilibrés au Sénégal et au Mali. Donc si on essaye de résumer l'enchaînement des politiques, ça part de phénomènes urbains, les crises dans les grandes villes. Il y a eu des interventions des États qui ont varié selon la position qu'elles ont dans leur politique agricole, puis des sommets internationaux. Donc là, on a mis sommet de Rome parce que vous savez qu'il y en a eu un en 2008 en juin qui a fortement mobilisé les chefs d'État, alors qu'il y en a eu un récemment en novembre où seul Silvio Berlusconi s'est déplacé, il ne pouvait pas trop éviter à Rome. Donc on voit que là, il y a eu une baisse forte de l'attention des pays et que à la base de cette espèce de réaction en chaîne non contrôlée, vous voyez qu'il y a eu un phénomène qui est des émeutes urbaines et, comme on l'a dit précédemment, qui concerne que 20% finalement des gens qui souffrent de la faim. Comme ça a été rappelé précédemment, la principale partie des gens souffrant de la faim sont au contraire des personnes vivant en milieu rural. Le genre de phénomène que ces personnes rencontrent, c'est typiquement un phénomène de soudure. Donc la soudure, ça désigne, c'est un terme moyenâgeux qui désigne la période qui s'écoule entre l'épuisement des réserves individuelles d'une récolte et la récolte suivante. Pendant cette période intermédiaire, les paysans doivent racheter la récolte qu'ils ont vendue à des grossistes. Un exemple typique, ici pris à Madagascar, grand pays de riziculture, vous avez donc une période de récolte, puis vient la consommation des réserves individuelles, le début de la soudure pendant laquelle les paysans qui cultivent eux-mêmes du riz rachètent du riz, puis la soudure en elle-même pendant laquelle les prix sont les plus élevés, puis on revient dans le cycle. Donc ça, c'est le genre de phénomène typique que rencontre le genre de personnes typiques souffrant de la faim, c'est-à-dire les agriculteurs. Donc face à ce genre de phénomène, une solution bien connue et pas si difficile que ça, ça dépend des pays, mais dans certains cas à mettre en place, c'est les banques de soudure, c'est-à-dire des stockages au plus près des paysans qui leur permettent de stocker leur production et de faire face à la période de soudure. Cette solution est mise en œuvre dans beaucoup de pays, que ce soit à Madagascar, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo, parfois grâce à du microcrédit, parfois grâce à des ONG, parfois grâce aux États eux-mêmes. Donc si on revient à notre articulation et à notre réaction en chaîne de tout à l'heure, nous voyons que pour lutter contre la faim, si on veut toucher le plus de personnes souffrant de la faim, il faut partir d'actions locales, on aurait pu rajouter d'actions locales concernant des populations rurales, que ces actions doivent être coordonnées avec un soutien de l'agriculture nationale, le tout coordonné avec un soutien de l'ONU ou de la FAO. Ce qu'on dit là n'est pas quelque chose de fondamentalement très original. La FAO l'a redit récemment en demandant que l'aide portée aux pays en voie de développement soit de l'ordre de 17% pour l'agriculture, ce qui représente 44 milliards de dollars. Donc on voit qu'à une réaction en chaîne qui part d'éléments dans les villes, se substituerait une réaction coordonnée qui partirait d'actions locales dans les campagnes. Et je laisse Frédéric conclure.
Donc, en conclusion, les deux principaux points sur lesquels on voulait vous sensibiliser. Le premier, c'est attention à la logique offre-demande. Certes, on l'a vu, c'est une condition nécessaire pour assurer l'alimentation nécessaire à chacun, mais trop rester enfermé dans cette logique, c'est le risque d'oublier la problématique de l'accès physique et financier, qui, encore une fois, est la problématique actuelle. Aujourd'hui, on produit assez, mais on n'arrive pas à transférer cette production à l'ensemble des personnes. Il y a aujourd'hui assez pour se nourrir, mais 1 milliard de personnes qui souffrent de sous-alimentation. Donc il y a bien un autre problème auquel il faut absolument s'attaquer. Le deuxième point, c'est que les crises récentes, crise alimentaire en 2007-2008, puis la crise économique à l'heure actuelle, ont servi de signal d'alarme. C'est bénéfique, puisqu'elles ont permis de remettre la faim sous le feu des projecteurs. Mais elles ne doivent pas nous faire oublier les causes structurelles. Ce sont des événements essentiellement ponctuels dont les analyses ont focalisé l'attention sur certains éléments qui, d'après nous, ne sont pas les causes structurelles et profondes de la faim qui, encore une fois, restent des problématiques locales. On a voulu terminer sur une note positive en vous montrant que des solutions existent pour assurer le droit à l'alimentation. Mais ça nécessite, à notre avis, deux choses. La première, c'est d'accepter que les denrées alimentaires ne sont pas des biens comme les autres. On ne peut pas s'empêcher de manger chaque jour, contrairement à d'autres biens comme des téléviseurs ou des voitures, dont on peut stopper sa consommation au moment où on a moins d'argent ou au moment où les prix sont trop élevés. Pour ce qui est de la nourriture, il faut quotidiennement en consommer. Le deuxième point, c'est qu'il faut, à notre avis, revoir les interactions entre les niveaux politiques locaux, nationaux et internationaux. On a vu que les événements récents avaient déclenché une réaction en chaîne entre ces différents niveaux, pas forcément concertée, et donc, d'après nous, il faut revoir ces différentes interactions. Merci à tous pour votre attention et nous attendons les commentaires de Philippe Chalmin et Bruno Parmentier. Merci.